Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 367 et on débute cette neuvième saison déjà. Et je voulais présenter une institution qui est intéressante, que tout le monde ne connaît pas forcément. Dans les échos que j'en ai eu, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Et pourtant, elle va vous parler quand je vais vous donner son nom. C'est l'Institut Jacques Delors, qui pour la formation professionnelle forcément interpelle un peu. Et justement, c'est un think tank et on a la chance d'avoir Sylvie Matelli, qui est sa directrice, et qui va nous présenter un peu ce que représente l'institution et qu'est-ce qu'on peut en faire finalement. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'Institut Jacques Delors?
Très bonne question, Stéphane. Merci de
Merci.
l'avoir posée. L'Institut Jacques Delors, c'est un institut qui est créé en 1996 par Jacques Delors, qui ne s'appelle pas Institut Jacques Delors. On a attendu l'an passé pour prendre définitivement ce nom. L'an passé, c'est la date de son décès, puisqu'il refusait qu'on appelle cet Institut Jacques Delors. Donc, c'était l'Institut Notre Europe. On a rajouté ensuite Notre Europe Jacques Delors quand il s'est retiré à 90 ans de l'Institut. Et puis, on est finalement devenu l'Institut Jacques Delors l'an passé. Donc, institut qui est créé en 1996 par Jacques Delors. 1996, c'est le moment où il quitte la Commission européenne, puisque Jacques Delors a été président de la Commission européenne, l'Ursula von der Leyen de l'époque, pendant 10 ans. Pendant 10 années, et des années cruciales, puisque c'était entre 1985 et 1995, donc c'est l'époque où on a mis en place le marché unique, et c'était à son initiative en 1992. C'est l'époque également où on a lancé le projet d'une monnaie unique, l'euro. Ce n'est pas totalement un hasard, puisque Jacques Delors, il venait de la Banque de France, il venait du milieu financier, en tout cas de la banque, et de la banque de notre banque centrale, et qu'il était très attaché à l'idée d'avoir une monnaie européenne. Donc, il avait poussé dans ce sens. Puis, les années 80-90, c'est aussi la fin de la guerre froide. Et donc, la chute du mur, la fin de cette partition de l'Europe Est-Ouest, avec un positionnement très clair qu'il a eu sur l'élargissement, en expliquant que même si ça risquait d'être compliqué, difficile, c'était une responsabilité géopolitique qu'avaient les pays de l'Ouest que d'intégrer leurs voisins de l'Est, et que ça assurerait la sécurité de l'Europe, ça garantirait que la Russie serait cantonnée dans les limites de ses frontières. Et on voit combien aujourd'hui cette vision était particulièrement visionnaire. Et puis, les années 90, c'est toutes ces années aussi d'ouverture, de développement du commerce international, de mondialisation. Et Jacques Delors était et portait cette vision de l'Europe, une Europe, une économie, une compétition qui stimule. Donc, on est dans une vision relativement libéral, on va dire, mais en même temps, c'est un homme de gauche, donc il avait cette dimension sociale, et il expliquait, il a été le père fondateur du dialogue social européen. Il expliquait que cette compétition qui stimule devait être accompagnée d'une solidarité qui renforce, bien évidemment, et donc d'une dimension, d'une coopération qui renforce et d'une solidarité qui unit. Voilà sa phrase.
Donc, ce
Donc,
qui est un bon programme, mais finalement, là, tu as situé l'environnement. C'est quoi l'activité, de l'Institut?
et c'est pour ça que j'ai pris ces détours-là, parce qu'en fait, lorsqu'il crée cet institut, c'est avec l'idée de que son projet, malgré les 10 ans de présidence de l'Union européenne, ses ambitions étaient extrêmement élevées et il n'a pas abouti. Il était insatisfait sur le marché unique qui avait été mis en place, qui avait bien avancé, mais sur certains sujets qui n'étaient pas finalisés, en particulier le sujet financier, où chaque pays avait encore un système financier national, sur le sujet des télécommunications également et de la téléphonie, sur la question de l'énergie. Il trouvait qu'il était dommage que les Européens soient encore aussi dépendants de leurs importations d'énergie fossile, que les Européens n'aient pas construit une communauté européenne de l'énergie qui leur aurait permis d'être plus forts tous ensemble. Et donc voilà, si je disais ça, c'est parce que tous les sujets que nous portons aujourd'hui et que nous étudions aujourd'hui sont des sujets qui vise à finaliser ou à porter la vision qu'avait Jacques Delors de cette Europe. Et donc les grandes questions que nous traitons, la question énergétique, vous l'avez compris, la question de l'élargissement également, et puis les questions sociales, les questions sociétales, et même aujourd'hui l'Europe dans le monde et les questions de sécurité et de défense, avec cette vision très delorienne, comme on dit, c'est-à-dire une vision de gauche. Où la création de richesses doit servir l'épanouissement de l'humanité et de l'humain, sinon ça n'a aucun sens.
Est-ce que dans cette dimension européenne, pour simplifier, bien sûr, pour résumer, on pourrait dire que c'est une vocation fédéraliste de l'Europe?
Aussi, c'est Jacques Delors parlait d'une fédération d'États-nations, c'est-à-dire ce qui peut paraître quelque part assez contradictoire, mais qui signifie bien que dans cette Europe, on est face à quelque chose qui peut paraître paradoxal, des États-nations qui continuent à exister, mais qui coopèrent ensemble dans une sorte de fédération pour construire un avenir meilleur pour les citoyens européens. L'avenir meilleur, c'est l'avenir économique, et c'était le marché unique, mais c'est aussi le modèle social. Et aujourd'hui, et il était déjà allé sur ces sujets, c'est la question environnementale. J'aime bien rappeler, si tu me permets, Stéphane, je vais le faire, que Jacques Delors avait proposé en 1992, au sommet de la Terre, une taxe carbone. Donc déjà, il y a très très longtemps, conscient que la question des émissions de CO2, la question climatique, elle est une vraie question. Et puis un dernier sujet également, c'est la question de la sécurité, c'est-à-dire les Européens doivent pouvoir vivre dans cette fédération d'États-nations en sécurité et protégés par cette union européenne.
Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous réunissez, vous avez des colloques, vous avez des publications?
Alors, on est ce qu'on appelle un think tank. C'est un mot à la mode, mais
Oui, exactement.
on oublie parfois d'expliquer ce qu'est un think tank. Un think tank, en fait, c'est un centre de recherche. Un petit peu comme à l'université, il y a des chercheurs qui, dans toutes les disciplines que l'on connaît, que ce soit les sciences humaines, les sciences sociales ou les sciences dures, des chercheurs qui réfléchissent, qui cherchent à comprendre des phénomènes physiques et biologiques quand on est en sciences dures, ou des phénomènes sociaux, c'est plutôt notre cas quand on est en sciences sociales. Donc nous, on fait à peu près le même boulot, sauf que la différence entre un think tank et un laboratoire de recherche universitaire, c'est que le laboratoire de recherche universitaire, il est sur une recherche plus fondamentale qui va permettre de construire des concepts, créer finalement une sorte de cadre de réflexion, de cadre d'analyse de la société dans le cadre des sciences sociales. Le think tank, la petite différence, c'est qu'il mène des recherches avec une visée plus opérationnelle, c'est-à-dire aider, accompagner à la fois les décideurs publics et les décideurs privés, les chefs d'entreprise, dans leurs décisions, à mieux comprendre certains sujets et à prendre les bonnes décisions au bon moment, mais aussi accompagner l'opinion publique, la société civile, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Eh bien, au quotidien, on suit l'actualité, on réfléchit sur cette actualité, on essaye de la décrypter, et puis soit on écrit des papiers, des papiers plus ou moins longs. En think tank, on essaye de faire des papiers plutôt courts et plutôt abordables pour le commun des mortels, puisque notre public, que ce soit le chef d'entreprise, le responsable public ou le grand public, c'est quand même plutôt le commun des mortels que de grands experts qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Et on peut aussi participer à des conférences, aller expliquer un certain nombre de choses. Et là aussi, ça peut être des conférences où on va être face à des académiques, des chercheurs universitaires, on va confronter nos visions, eux leur vision plus fondamentale, nous notre vision plus terrain, ou alors des conférences grand public et des échanges grand public et on répond aux questions qui nous sont posées.
Ah, très bien. Et donc, si une entreprise voulait adhérer, ça a du sens ou pas plus que ça?
Ah bah carrément, je ne vais pas dire le
Ouais.
contraire.
Ouais,
Oui,
ouais.
ça a complètement du sens et on a besoin, nous, on a besoin. Je nous comparais à un laboratoire de recherche. Les laboratoires de recherche sont plus là, pour la plupart, de recherche fondamentale, sont plus là, pour la plupart, abrités par les universités en France et donc financés en partie par les universités. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on est entièrement privés. On est une association, en fait, reconnue d'utilité publique. Et donc, on a besoin, bien évidemment, du soutien financier d'un certain nombre de partenaires. Alors ce soutien financier, il peut être de plusieurs ordres, hein. Ça peut être, on a quelques partenaires qui sont de généreux, de mécènes, qui considèrent qu'on a besoin d'un centre qui réfléchit sur les questions européennes, d'un centre qui porte la vision qu'avait Jacques Delors de l'intégration européenne et qui sont chaque année, qui nous financent pour nous soutenir et pour nous financer. Mais on participe aussi et on peut produire aussi un certain nombre de papiers, un certain nombre d'études, on peut organiser des conférences ou des séminaires en fournissant la matière grise, puisqu'on a, c'est notre métier, pour un certain nombre de partenaires et d'entreprises. On peut également former aux questions européennes, un certain nombre, puisque on réfléchissait sur les, vous êtes tous vous intéressez aux questions de formation. Donc, on peut intervenir dans des formations sur les questions européennes, monter des séminaires sur les questions européennes pour décrypter. L'intérêt qu'on a et l'intérêt de travailler avec nous, c'est que on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Bruxelles et on diffuse beaucoup nos idées sur Bruxelles, puisque on porte le modèle d'Europe de Jacques Delors. Bah, ce modèle d'Europe, il n'a de chance d'aboutir que si on le promeut à Bruxelles. Donc, bien évidemment, on travaille directement avec les institutions et du coup, on peut faire intervenir aussi des représentants d'institutions européennes. On a un projet, on a un programme qui est particulier. Riche et intéressant, c'est notre Académie Jacques Delors, l'Académie Notre Europe, pardon, pas Jacques Delors, c'est notre conférence qui s'appelle Jacques Delors. L'Académie Notre Europe, c'est une formation entièrement gratuite pour les jeunes qui accueille chaque année une centaine de jeunes de toute l'Europe et au-delà, puisque cette année, on a 29 nationalités qui sont représentées. Donc, on a cette centaine de jeunes qui viennent suivre. Alors, je suis un peu gênée de dire une formation parce que c'est pas une formation certifiante ou diplômante, c'est vraiment plutôt un échange d'expérience, de décryptage sur une formation à la citoyenneté en fait européenne. Ça veut dire quoi être européen? Ça veut dire quoi être citoyen européen? Et on explique l'Europe, on décrypte l'Europe. Et là-dessus, on a fait le choix d'offrir cette fenêtre sur l'Europe gratuitement aux jeunes pour attirer aussi des publics qui sont pas tellement connectés aux questions européennes parce que ça ouvre tout un réseau, ça ouvre de nouvelles perspectives. Là, on a vraiment besoin de mécènes en fait d'entreprises qui soient intéressées, soit à financer l'académie dans son ensemble, soit à financer, à donner une, deux, trois, quatre bourses pour des jeunes qui viendraient suivre la formation à l'académie.
Une bourse nominative de l'entreprise. Donc,
Tout
ça donne aussi ce qu'on appelle le corporate branding, une façon de marquer un peu socialement ce qu'on a envie de dire. Donc,
à
ça,
fait.
c'est passionnant. Et je rappelle aussi que l'Institut est à Paris, le siège est à Paris. Donc, ceux qui veulent venir vous voir, n'hésitez pas. Ce n'est pas inintéressant. Si on se recentre sur les compétences, c'est quoi la position de l'Institut Sylvie Matelli?
Sur les compétences.
Sur les compétences, sur la politique des compétences européennes.
Oui, alors bah, la question, tout le travail sur les compétences européennes, le suivi des compétences, l'harmonisation des formations en Europe, c'est aussi un dossier qui a été porté par Jacques Delors. Alors vous allez dire, j'en fais beaucoup sur Jacques Delors, mais je ne suis pas la seule à penser que ça a été quand même un président marquant de la Commission européenne, puisque la
C'est
Commission
quand même le
européenne
moindre
a...
des choses sur l'Institut Jacques Delors d'en faire un peu quand même dessus.
Oui, c'est clair.
Ouais,
Mais là, pour vous donner un ordre d'idée on se rend pas compte en France, hein, parce que Jacques Delors a aussi été un homme politique français et que parfois on confond sa carrière d'homme politique française et sa carrière européenne, mais on se rend vraiment pas compte de la façon dont il est perçu dans le reste de l'Europe. Deux petits exemples très très pratiques et je reviens sur votre question des compétences. Lorsqu'il est décédé en décembre 2023, le Portugal et l'Espagne, par exemple, ont déclaré 2 jours de deuil national. Donc ça vous donne, oui, ça vous donne l'ampleur de la réputation de ce grand européen. Et puis c'est un des trois citoyens d'honneur de l'Union européenne. Donc il n'y en a que trois. Il y a Schuman, il y a Kohl, Helmut Kohl, le chancelier allemand, et il y a Jacques
D'accord.
Delors. Donc vous voyez, on se demande parfois l'influence qu'on a à Bruxelles. On a encore une forte influence à Bruxelles aussi parce qu'il y a eu Jacques Delors. Alors sur les compétences, justement, c'est un sujet qu'il avait très fortement porté et poussé et que nous continuons à défendre, cette Europe sociale, mais cette Europe aussi de la formation, cette Europe des compétences pour qu'on ait des jobs et des emplois qui soient de plus en plus qualifiés, qu'on soit en capacité de s'adapter aussi à toutes les mutations. Et Dieu sait que dans les mois et les années qui
Alors,
viennent, il y a...
je vais peut-être retourner ma question en disant, là, il va y avoir une union des compétences qui a été décidée. Donc, c'est un grand lancement de quelque chose. On ne sait pas bien ce que ça représente en France. Donc, si tu pouvais nous en parler, ça serait sympa. Et puis, deuxième élément, est-ce que c'est pas un peu comme l'économie de la connaissance, qui devait être la plus dynamique du monde, finalement, ces grands projets, est-ce que c'est vraiment utile?
Alors, c'est un vrai sujet. C'est le vrai sujet, c'est la question piège. L'union des compétences, elle s'inscrit dans cette logique d'harmoniser progressivement les compétences, la définition des compétences, mais aussi le niveau de compétences des Européens pour qu'ils soient en capacité de pouvoir travailler partout en Europe, puisque le marché unique, c'est aussi la libre circulation des personnes et que cette libre circulation des personnes, elle n'est possible que si on a les compétences. En général, quand on bouge, alors on bouge pour aller voir Berlin, Cracovie, Rome ou une autre ville européenne. Donc ça, c'est du tourisme. On n'a pas franchement besoin d'avoir quelques compétences que ce soit. On aurait des trains qui sont mieux connectés, ce serait peut-être mieux. Mais on bouge aussi beaucoup en Europe pour travailler. On se souvient au
Oui,
moment du
bien sûr.
Brexit, la question du plombier polonais qui s'est fait virer au moment du Brexit et qui n'est pas retourné parce qu'il est rentré dans son pays et qu'il y avait eu de la croissance économique et qu'il a retrouvé du job. Mais voilà, on a besoin bien évidemment que les compétences soient harmonisées en Europe pour que les gens puissent se déplacer et que pourquoi les gens devraient se déplacer?
En France, on n'a pas beaucoup de personnes qui soient de l'Europe, puisqu'il n'y a que 4%, je crois, de la population active qui vient d'une population étrangère et principalement européenne, bien sûr.
Oui, et c'est un enjeu en fait. C'est un enjeu parce que, bah, avec le, on se rend compte d'abord que chaque pays, malgré l'intégration européenne et les décennies d'intégration européenne, on se rend compte que chaque pays a des besoins en matière de salariés, de ressources humaines qui peuvent être différents, peut avoir des forts besoins à un moment donné et moins de besoins à un autre moment. On a des niveaux de chômage qui sont très différents d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que l'harmonisation des compétences et une reconnaissance harmonisée des compétences partout en Europe, bah, ça permet à des Européens vivant dans des pays où il y a un fort taux de chômage, où dans leur secteur d'activité, il est plus difficile de trouver du job, peut-être de bouger et d'aller ailleurs. Alors c'est vrai, tu as raison de le rappeler, s'il y a quelque chose qui caractérise l'Europe plus que partout ailleurs, c'est la faible mobilité en fait des travailleurs européens. On bouge assez peu en réalité, on bouge assez peu, mais peut-être parce qu'il y a encore des freins, peut-être parce que cette union des compétences est nécessaire et qu'elle facilitera les échanges et elle facilitera la mobilité.
D'accord. Donc, ce qui veut dire que donc c'est intéressant parce que c'est une vraie volonté de brassage. Aujourd'hui, il n'y a pas pour l'instant l'écho nécessaire, mais c'est tout le principe du militantisme, permettre et aussi au marché de l'emploi en France, quand on est en pénurie, bah, de profiter de la main-d'œuvre qui serait étrangère alors qu'on ne l'a pas sur le territoire. Et inversement, bien sûr.
Est-ce qui va être fondamental avec le vieillissement de la population? Et on sait déjà que nos populations ne vieillissent pas toutes au même rythme, et donc qu'il va y avoir probablement plus d'emplois à pourvoir dans certains pays pendant un certain temps que dans d'autres, bien évidemment. Et l'harmonisation des compétences et la reconnaissance des compétences partout en Europe, c'est aussi la possibilité de revenir. Parce que vous pouvez commencer à travailler en Allemagne, vous allez vous former en Allemagne, et puis à un moment donné, peut-être que vous aurez envie de revenir en France, en Espagne, et suivant d'où vous venez. Et à tout moment de la vie, cette union des compétences doit favoriser la mobilité et la possibilité de choisir l'endroit où on souhaite travailler.
Et dans cette union de compétences, on parle beaucoup des académies de compétences, mais aussi, on parle aussi des micro-compétences qui seraient plus reconnues que peut-être les diplômes. Donc ça inquiète pas mal de monde qui se disent, est-ce que c'est pas de la norme et de la norme pour finalement embrouiller tout le monde?
C'est une vraie question. Encore une fois, tout est à discuter, tout est à négocier. Et derrière une bonne idée, il peut toujours y avoir des effets pervers. La philosophie générale, quand même, de cette union des compétences, c'est d'élever le niveau de qualification des salariés européens, d'accompagner l'élévation de ce niveau de qualification. De faciliter les mobilités aussi dans ce sens-là. Donc ça part plutôt d'un bon sentiment et d'une bonne idée. Dans les réglementations ou dans les initiatives européennes, on a toujours le, il y a toujours plusieurs niveaux en fait d'évaluation de l'initiative. Il y a le niveau européen et tout le processus qui va s'engager entre la Commission qui va proposer sa copie de l'union des compétences, le Parlement et les États, le Conseil et les États qui vont faire des amendements à cette proposition. D'ailleurs, à la baisse ou à la hausse, hein, qui peuvent décider d'aller beaucoup plus loin que ce que proposera la Commission. Donc ça, c'est le processus classique avec les rapports de force, hein, que ce soit au Parlement ou au Conseil. Donc entre les États qui vont jouer bien évidemment et qui vont donner une première copie. Puis après on s'aperçoit et on l'a vu très fortement dans sur toutes les questions marché unique qu'il y a un deuxième niveau, c'est le niveau de mise en œuvre au niveau des États. Et là chaque pays applique un peu à sa manière ces éléments-là. Donc c'est difficile en amont. Bien sûr il faut être attentif, bien sûr il faut suivre ce sujet, bien sûr il y a toujours des risques, mais il faut bien évidemment être attentif. En tout cas, dans les objectifs qui sont exprimés par la Commission européenne pour aller dans ce sens, je crois que l'idée d'atteindre un niveau plus élevé de compétences, l'idée de permettre aux citoyens d'acquérir tout au long de leur vie les compétences nécessaires dans notre monde où les compétences nécessaires pour avoir du travail, un bon travail, un travail qualifié, un travail bien payé, et quand même en mutation permanente. L'accompagnement que peut avoir cette union sur les possibilités, les opportunités d'emploi des salariés européens sont plutôt des bonnes idées.
Bien sûr. Et en fait, il y a une grosse polarisation. Il y a ceux qui sont très formés et ceux qui le sont très peu. Et on s'aperçoit que, est-ce que des choses sont faites? On parle de New Deal éducatif. Est-ce que des choses sont faites pour améliorer le niveau de compétence des moins 10 ans?
En tout cas, dans le projet qui a été proposé par, enfin qui n'a pas été proposé, mais dans les éléments qui sont donnés par la Commission, il y a quand même cette idée d'élever le niveau de compétences. C'est pas seulement élever le niveau des compétences des mieux-disants, c'est aussi accompagner les moins-disants. Il y a le constat de à peu près autour de 20% des citoyens européens qui ont encore du mal à lire et à écrire, et l'idée qu'il faut les accompagner pour résoudre ça. Donc il y a tout un ensemble d'objectifs qui sont affichés, qui paraissent assez clairs. Il y a la question du niveau de mathématiques aussi qui est
Oui, bien
posée,
sûr.
avec on voit les jeunes de moins de 15 ans qui ont des difficultés en mathématiques et en sciences, et ça à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du digital et de la révolution digitale, c'est un vrai sujet. Donc voilà, il y a de bonnes intentions, il y a de bonnes idées. Le reste doit être suivi très attentivement, la façon dont on avance, parce que de bonnes idées, on peut faire quelque chose de très bien, et puis on peut faire une usine à gaz aussi, hein, c'est toujours pareil.
Non, bien sûr. Et les entreprises dessus peuvent profiter de ce cadre réglementaire qui permet une belle harmonisation. Donc, les entreprises qui sont alors souvent françaises, mais qui ne sont pas que françaises et qui sont plus européennes, c'est une façon de construire aussi leur plan de compétences. Est-ce que ça, il peut y avoir des passerelles dessus pour les
C'est en tout cas
entreprises?
de ce que je comprends, hein, c'est pas forcément mon sujet, l'union des compétences, donc, mais de ce que j'en comprends, il y a quand même cette idée aussi, ce constat qui est fait qu'un certain nombre de petites entreprises, en particulier quand vous êtes une grosse multinationale, vous êtes présent partout, c'est pas très compliqué d'aller recruter des talents, mais quand vous êtes une PME, c'est plus compliqué. Et l'idée, c'est aussi de faciliter l'accès à un marché du travail européen et harmonisé pour les petites et moyennes entreprises qui ont du mal, qui ont parfois du mal à trouver les bonnes personnes au bon moment. Or, on sait parfaitement qu'aujourd'hui, c'est même pas qu'aujourd'hui, mais on sait parfaitement que la créativité, l'innovation, le dynamisme d'une économie, l'emploi est quand même grandement porté par les petites et moyennes entreprises. Donc il y a cette idée d'aller chercher par cette initiative un intérêt bien compris du côté des entreprises et du côté des salariés.
Et est-ce que ce système s'intéresse qu'aux entreprises ou aussi à l'éducation, aux systèmes éducatifs nationaux, qui sont ceux qui préparent les futurs collaborateurs? Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un niveau avec les PISA qui baisse, qui est en forte interrogation. Et donc on se dit, est-ce que ça va toucher aussi ce domaine-là, la restructuration sur les compétences?
Alors là, tu me poses une colle, je n'ai pas regardé en détail. Moi, je serais tentée de dire qu'inévitablement, il faudra redescendre au niveau de l'éducation. Quand on parle de compétences, on est plutôt sur des idées de formation tout au long de la vie et comment on accompagne les salariés dans leur montée en compétences, si tu me permets l'expression, tout au long de leur vie pour trouver du travail et pour pouvoir rebondir quand ils souhaitent changer, se réorienter ou quand ils ont des difficultés et qu'ils perdent leur emploi. Et puis, il y a cette dimension entreprise, aider aussi les entreprises à identifier les talents et à maintenir les compétences sur le territoire européen. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, la compétence tout au long de sa vie et lorsque on est dans l'emploi, elle va être aussi très largement conditionnée par les études qu'on a suivies. On parlait tout à l'heure du niveau de mathématiques des jeunes de moins de 15 ans. Bah là, on parle d'école, en fait, hein, et on parle de l'éducation à l'école et comment on fait aujourd'hui pour réorienter l'enseignement, pour réorienter l'éducation des jeunes, pour qu'ils soient parfaitement à niveau pour acquérir ultérieurement les compétences qui seront nécessaires pour occuper l'emploi qu'ils souhaitent.
Exactement. Et ça pose aussi la question des NEET. Qui sont les jeunes qui sont sans qualification, sans emploi, et dont qui sont nombreux, puisqu'ils sont 1,5 million. Dans ces cas-là, on ne sait pas bien comment les réintégrer, les resocialiser pour qu'ils soient une force vive. Donc, c'est des vraies belles questions qui sont intéressantes dessus. Justement, sur ces questions-là, l'Europe a beaucoup investi à la fois sur les compétences, mais aussi sur l'avenir. Et donc le rapport Draghi a montré qu'effectivement, il fallait investir fortement. C'est le projet qui n'est pas pour l'instant mis en application, c'est un rapport, hein. Mais ça veut dire qu'il faut investir énormément. Est-ce qu'il y a cette volonté de développer ce New Deal sur tout ce qui est l'intelligence artificielle et plus généralement le numérique, sur ce qui est l'écologie et donc après les compétences nécessaires pour réaliser ces ambitions?
En tout cas, c'est l'ambition qui était affichée par la présidente de la Commission européenne lorsqu'elle a été élue en juillet 2024 et dans les lettres de mission qu'elle a rédigées et qu'elle a envoyées au commissaire qui était pressenti pour prendre les postes dans le collège des commissaires de la Commission européenne à l'automne 2024. Donc on était vraiment dans cette logique avec systématiquement dans chacune de ces lettres de mission, les rapports Draghi, l'État, qui étaient rappelés comme le cœur du diagnostic de ce vers quoi on voulait aller. La question qui va se poser ensuite, c'est la capacité de cette commission et des institutions européennes à véritablement avancer. Le rapport Draghi, c'est un rapport très ambitieux. Si on y rajoute le rapport l'État, c'est un rapport tout aussi ambitieux, même si les deux se complètent, hein, bien
Merci.
évidemment. Et on s'aperçoit que, alors déjà, on a, ça on le dit souvent, et c'est presque une tarte à la crème que de le rappeler, mais ben, on n'a pas tous les mêmes intérêts en Europe, les États ne sont pas tous d'accord sur tout, donc déjà il faut passer ce cap et arriver à convaincre, mais ça, la méthode communautaire est assez rodée et ça prend du temps, mais on y arrive et on finit par avancer. La question c'est que l'ambition est très élevée, est-ce qu'on avancera dans cette ambition? Et puis au-delà de la cuisine européenne habituelle et que l'on connaît bien, il y a bien évidemment l'agenda international qui vient percuter tout ça avec d'un côté de l'Europe, à l'est de l'Europe, la guerre en Ukraine et l'insécurité générée par la Russie, au-delà de la guerre en Ukraine, hein, on l'a vu encore ce matin, avec je ne parle pas du tout du gouvernement Bérou, mais de l'autre actualité qui a, qui a, qui a qui a marqué ce début de semaine, et les ingérences russes sur nos territoires et partout en Europe, hein, c'est donc il y a cet aspect-là, et donc il faut se mettre en ordre de marche, il faut réagir très 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 vite, et si on réagit très 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 vite sur cette urgence, ben, on en oubliera d'autres, et puis de l'autre
Et
côté, la
justement,
question du
sur
matra.
ces questions qui sont politiques et qui nécessitent d'avoir une économie qui soit performante, parce que ça donne les outils de son ambition, avoir des idées, c'est bien, si on a les moyens, c'est mieux. Et quand on voit aujourd'hui, il y a une vraie volonté sur l'intelligence artificielle avec l'IA Act qui reprenait la RGPD, mais derrière aussi, c'était la volonté de se dire, on va faire quelque chose sur l'IA. Or, on s'aperçoit qu'avec cette volonté qu'on avait eue de faire quelque chose de grand en Europe, on n'a pas de GAFAM. On n'a pas de leader. Et donc finalement, est-ce que cette volonté de réglementer n'est pas contre-intuitive par rapport à l'économique et qu'on soit à la hauteur de notre puissance?
Alors, si je réponds oui, bien sûr, à cette question, ça veut dire que je fais l'hypothèse que la réglementation vous empêche systématiquement d'avancer et que c'est ça qui fait qu'on n'a pas aujourd'hui des data, etc. Moi, je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je pense qu'effectivement, sur un certain nombre de sujets, on doit veiller à ne pas surréglementer, à ne pas... Et surréglementer, ça peut aussi vouloir dire deux choses. Ça peut aussi vouloir dire vouloir aller trop vite. Sur le pacte vert, par exemple, on a beaucoup critiqué le pacte vert. Mais je crois que derrière toutes les mesures qui ont été mises en place entre 2019 et 2024, il y avait cette idée d'aller très très vite parce qu'il y avait urgence climatique. Donc peut-être qu'on est allé trop vite, peut-être qu'on a surréglementé, et c'est d'ailleurs très certainement le cas puisqu'on est en train de détricoter tout cela tout en essayant de garder le cap parce que le climat il change quand même. Et donc, il ne faut pas complètement jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, il y avait cette urgence qui fait qu'on est allé très vite et que peut-être en allant très vite, on a superposé. Il y a un deuxième élément aussi qui a souvent été souligné, en particulier par les agriculteurs et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole commune, c'est qu'on a tendance souvent à avoir un cadre européen. Et puis on veut transposer chez nous en rajoutant encore nos propres régulations, nos propres contraintes. Et ça, il faut qu'on travaille pour éviter ce... Parce que finalement, on dédouble en fait et on fait double régulation. Donc voilà, il y a ces deux éléments. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. C'est certain et il faut aller très très vite. Après, sur l'IA, sur le digital, on n'est pas à la ramasse. Uniquement parce qu'il y a eu de la régulation. On est aussi à la ramasse parce qu'on a considéré de manière peut-être trop confiante, on a considéré que la mondialisation nous offrait accès à tous les marchés, que de toute façon, donc accès à toutes les technologies, et on n'avait pas anticipé qu'un jour il y aurait une confrontation Chine-États-Unis qui ferait que les relations internationales se durciraient et que c'est sur les enjeux les plus stratégiques que ça allait bloquer, sur le numérique, et qu'on aurait besoin de renforcer notre souveraineté, et que renforcer notre souveraineté, ça voudrait dire investir dans l'innovation. Au début des années 2000, tu le disais tout à l'heure, on a eu la stratégie de Lisbonne qui visait à faire de l'Europe la première économie au monde de la connaissance. Qu'est-ce qu'on a loupé en fait? Qu'est-ce qu'on a loupé il y a 25 ans? Eh bien, je pense que ce qu'on a loupé, c'est un manque de volonté politique d'aller dans cette direction parce qu'au fond, pourquoi s'embêter à construire du digital? Pourquoi s'embêter à devenir souverain dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de la défense, puisque c'est vraiment les trois sujets, hein, le digital, la défense et l'énergie, alors que vous pouvez acheter votre gaz à la Russie, vos technos du numérique auprès des GAFAM aux États-Unis, et votre sécurité, les États-Unis l'assurent dans un croisé d'intérêts économique et stratégique bien compris, on s'aperçoit qu'on a quand même été sacrément imprudent. Mais là aussi, on parle souvent du modèle allemand et on montre du doigt le modèle allemand. Je crois que c'est un modèle européen plus largement en réalité.
Exactement. Et surtout que sur les droits et la réglementation, les théoriciens des droits de propriété, comme Douglas North par exemple, ont montré que quand il n'y avait pas de règles, dans ces cas-là, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc il fallait des règles, mais des bonnes règles. Et donc, on voit si est-ce que derrière la relation entre l'économique et tous les droits de propriété, il reprend toute l'historique, c'est qu'en fait, il faut trouver les bonnes règles et les bonnes mesures. Donc, tant qu'on ne les a pas trouvées, on ne peut pas développer une activité économique. Donc, les deux ne sont pas à mettre en opposition.
Complètement. Et au-delà de ça, il est important de rappeler aussi, on le voit très très bien, combien le digital aujourd'hui et ces technologies du digital menacent directement, on parlait tout à l'heure des ingérences russes, mais on peut parler des réseaux sociaux, on peut parler, menacent directement nos démocraties. Et donc, on peut souhaiter avoir des GAFAM demain et des entreprises du numérique qui nous permettent d'assurer bien mieux qu'aujourd'hui notre souveraineté. Il n'empêche que on a aussi, si on veut préserver notre démocratie, et je pense que tout citoyen européen préfère vivre dans une démocratie européenne que dans un pays autocratique, eh bien, il faut aussi être attentif et faire attention à ce qu'on fait.
Pour ce qu'on arrive à la fin de l'émission, pour une entreprise qui aimerait que ses cadres soient sensibilisés à l'Europe, à la fois dans ses ambitions et sa politique, mais aussi dans sa mécanique, est-ce qu'on peut se rapprocher de l'Institut Jacques Delors pour les aider, pour faire le lien?
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors déjà, vous avez notre site internet qui vous permet d'avoir accès à toutes nos publications qui sont mises en ligne en français et en anglais de manière totalement gratuite. Et puis sur notre Institut Jacques Delors, pour aller plus loin, vous trouverez très facilement toutes nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Après, vous pouvez me contacter individuellement sur LinkedIn par un autre biais. Mais on est là pour ça et bien évidemment, on répondra à toutes vos questions et on essaiera de travailler ensemble si on peut vous aider avec grand plaisir.
Que ce soit de toute façon les grands groupes, il y a une pénurie de connaissances de l'Europe auprès des cadres dirigeants. Et les petites structures, c'est encore plus vrai parce qu'il y a une pénurie de connaissances. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir des relais. Des gens qui peuvent soit produire de la connaissance ou coproduire de la connaissance, mais dont on sache par où aborder cette connaissance.
Tout à fait,
C'est.
tout à fait. Et je me permets de préciser que nous, on a à la fois des chercheurs chez nous, des experts qui ont l'habitude en plus hein, de faire de la pédagogie, d'expliquer l'Europe, etc. Mais notre président, c'est Enrico Letta. Donc, on a participé aussi à la rédaction du rapport. Enfin, on a accompagné, on l'a aidé, on lui a fourni un certain nombre d'éléments. On a pas mal échangé avec lui. Après, il a fait son rapport comme il le souhaitait, avec ses idées, bien évidemment. Mais tout ça pour dire que ça peut aussi intéresser les entreprises que de revenir à la source primaire, en fait, hein, de ceux qui font l'Europe. Et je crois sans prétention qu'on peut dire qu'on participe d'une certaine manière et à notre toute petite échelle à faire l'Europe. Et ça peut être intéressant de comprendre comment se fait l'Europe aujourd'hui pour un certain nombre d'entreprises.
Absolument, et ça leur permettrait d'être acteurs dans cette mécanique, d'abord en comprenant. Donc bravo pour ce que tu fais et ce que vous faites, vous, avec l'Institut Jacques Delors. Donc Sylvie Matelli, plutôt sur LinkedIn, je le rappelle, et puis sinon sur le site, vous avez toutes les informations. Merci Sylvie, c'était intéressant et on a appris plein de choses, et donc on sait maintenant vers qui se tourner quand on a des questions.
Merci beaucoup Stéphane, très bonne fin de journée à tous.
À très bientôt, au revoir, bye
Au
bye.
revoir.